L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Le jeune Jim Hawkins habite en Angleterre dans une auberge que tiennent ses parents. Un jour, un vieux marin, Billy Bones, dit le capitaine, vient s'y installer. Il garde scrupuleusement un coffre car il redoute qu'on vienne lui voler. Après une crise d'apoplexie, celui-ci meurt et Jim découvre que le coffre contient un document indiquant le montant d'un butin volé ainsi qu'une carte au trésor. Les vieux amis du capitaine, pirates sans vergogne, veulent récupérer le contenu de la malle coûte que coûte. Jim s'enfuit alors avec sa mère et tous deux trouvent refuge chez le docteur Livesey et son ami le chevalier Trelawney. Ce dernier décide alors de monter une expédition pour aller découvrir ce trésor caché. Extrait du chapitre 10, Le voyage. Toute la nuit, nous avons été en grande effervescence, à mettre tout en place. Et après avoir un plein bateau d'amis du chevalier, M. Blandy et les autres qui sont venus nous souhaiter un bon voyage et un heureux retour. Il n'y a pas eu une seule nuit à l'amiral Benbow, où j'ai eu moitié autant de travail. J'étais sur les rotules quand, un peu avant l'aube, le maître d'équipage a sifflé la manœuvre pour mettre les matelots au bar du cabestan. J'aurais pu être deux fois plus fatigué que je n'aurais pas quitté le pont, tant tout était nouveau et plein d'intérêt à mes yeux. Les ordres brefs, les notes aiguës du sifflet, les hommes s'activant chacun à sa place dans le demi-jour des lanternes. « Et maintenant, barbecue, chante-nous en une !» a crié une voix. « La vieille rengaine !» a crié une autre voix. « D'accord, les gars !» a dit Long John Silver, qu'il se tenait là, sa béquille calée sous le bras, et qui, aussitôt, a entonné l'air et les paroles que je connaissais si bien. « À 15 sur le coffre du mort, là, tout l'équipage a repris en chœur « Yo ho ho !» et une bouteille de rhum. Et au troisième « ho », les hommes ont fait un effort pour pousser ensemble la barre vers l'avant. Malgré l'excitation du moment, cela m'a instantanément ramené à ce vieil amiral Benbow. Et il m'a semblé entendre la voix du capitaine piauler à l'unisson des autres. Mais bientôt, l'ancre est sortie de l'eau. Bientôt, elle a pendu, toute dégoulinante, à la proue. Bientôt, les voiles se sont gonflées. La terre et le bateau ont filé chacun de son côté. Et avant que je ne descende dormir, une heure ou deux, l'Hispaniola avait entamé son voyage vers l'île au trésor. Je ne vais pas raconter la traversée en détail. Elle s'est passée pratiquement sans histoire. Le bateau était bon. L'équipage constitué de marins capables, outre que le capitaine, connaissait à fond son affaire. Nous avons eu quelques jours de gros temps, qui a juste démontré les qualités de l'Hispaniola. Tous les hommes à bord semblaient contents, et il se serait montré bien difficile. Sinon, car je ne pense pas qu'un seul équipage a été autant gâté depuis que Noé a pris la mer. Ils avaient double ration de grog au moindre prétexte. Du pudding, même les jours de semaine. Si par exemple, le chevalier apprenait que c'était l'anniversaire d'un des hommes. Et toujours une barrique de pommes qui restait ouverte, de telle sorte que quiconque en avait envie pouvait se resservir. Je n'ai jamais vu que cela puisse donner quoi que ce soit de bon, disait le capitaine au docteur Livesey. Gâtez les hommes d'équipage et vous en faites des démons. C'est ce que je crois. Il a pourtant résulté du bon de ce tonneau de pommes, comme vous allez l'entendre. Sans lui, nous n'aurions pas été mis sur nos gardes et nous aurions peut-être tous été tués par traîtrise. Voici comment les choses se sont passées. Nous avions abandonné les alizés pour prendre le vent menant à l'île. Je ne suis pas autorisé à être plus précis. Et nous voguions rapidement vers elle en ayant un homme en vigie jour et nuit. D'après les calculs, les plus larges, en effet, C'était le dernier jour de notre voyage aller. D'un moment à l'autre, cette nuit-là, ou au pire, avant midi le lendemain, nous devions être en vue de l'île au trésor. Le cap était au sud-sud-est. Nous avions une brise régulière de côté et une mer calme. L'Hispaniola roulait tranquille régulièrement en trempant son beaupré par intervalle, ce qui faisait jaillir une gerbe d'embrun. Toutes les voiles étaient déployées. Tout le monde était de belle humeur parce que nous étions presque au terme de la première étape de l'aventure. Juste après le crépuscule, alors que mon travail finit, je regagnais ma couchette. Il m'est venu l'envie de croquer une pomme. Je suis montée sur le pont. Les matelots de quart étaient tous à l'avant, à guetter l'île. L'homme de bar surveillait les voiles tout en sifflotant doucement pour lui-même. C'était le seul bruit audible, en dehors du frottement de la mer contre l'avant et les bords du bateau. Je me suis glissée dans la barrique où il ne restait presque plus de pommes. Et là, assis dans le noir, avec le bruit de l'eau et le mouvement berceur du bateau, soit je m'étais endormi, soit je n'allais pas tarder à le faire, quand un homme de forte corpulence est venu s'asseoir bruyamment juste à côté. La barrique a tremblé quand il a appuyé son dos et je m'apprêtais à sortir quand l'homme s'est mis à parler. C'était la voix de Silver. Après avoir entendu une douzaine de mots, je me serais montré pour rien au monde. Je suis resté là, à écouter en tremblant, car ces 12 mots m'ont fait comprendre que le salut de tous les gens honnêtes qui étaient à bord dépendait de moi et de moi seul. Fin de l'extrait.